Dans l'émission Carnet de route du projet Samarconde. Samarconde, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le désirent de s'exprimer en toute liberté.
Salut, salut à tous.
Bonjour, Bilal.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, Nix.
Bonjour.
Bonjour, tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis en train de grandir, mais c'est dur, quoi.
Vous respirez, je vous pense que vous êtes plus à l'aise.
Vous pouvez parler franchement, ça ne me dérangera pas.
On est sur Terre, on l'a peut-être pas demandé, mais... on peut vivre avec.
Qui on est pour juger quelqu'un d'autre.
Les carnets de route, ce sont des projets éducatifs proposés par l'AMO Samarcande. Bonjour à tous et nous voilà pour une émission carnet de route. Aujourd'hui, en compagnie de Shana et Kérissa. Et je vous rappelle que le carnet de route, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui en ont fait la demande de s'exprimer en toute liberté pendant à peu près une heure. Et aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel parce que dans le studio mobile de Samarcande, j'accueille non pas une jeune fille, mais deux jeunes filles à qui je vais dire bonjour.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous revoir toutes les deux, Shana et Kérissa, ici dans le studio. Pour votre présentation, vous avez toutes les deux 15 ans.
Non, j'ai 17 ans.
Voilà, ça commence bien. Ah oui, Kérissa, elle a 17 ans.
Et... Non, Shana a 17 ans.
Shana, elle a 17 ans et Kérissa, elle a 15 ans.
Oui.
Vous venez tous les deux, vous êtes toutes les deux originaires du Congo, c'est ce que vous m'aviez dit. Hein.
Oui.
Et vous êtes, vous vivez dans quelle ville?
À Bruxelles.
Bruxelles. Bruxelles, toutes les deux. Et je vais vous commencer par vous poser une première question, c'est pourquoi vous avez eu envie toutes les deux de faire ce projet ensemble ici dans le studio? Kérissa.
Moi, personnellement, j'ai décidé de faire ces projets parce que je trouvais que c'était bien. Et parce que, pour une fois, je pourrais m'exprimer sans forcément que quelqu'un me porte un jugement. Donc, je pourrais parler de moi et non pas d'autres personnes. Ou on pourrait peut-être me comprendre, même si on ne me connaît pas vraiment. On apprendrait peut-être à découvrir mon histoire.
Quand tu parles de jugement...
Quand je parle de jugement, c'est que la majorité de temps, quand je parle de moi... on va dire dans des centres ou quoi, on a toujours tendance à essayer de juger pourquoi t'es arrivé là, pourquoi tout le temps trop de questions. Après, on va prendre cette image de toi différente parce que ça où on va avoir de la peine. Mais moi, forcément, j'ai pas envie qu'on ait de la peine pour moi. Moi, je compte parler juste pour qu'on m'écoute, pas pour qu'on me dise après tu me fais pitié par rapport à ça, ça, ça. Parce que la peine, on en a tous. Hein.
Voilà. Et Shana?
Je reviens du même avis qu'elle, parce que voilà, on est venu ici, mais j'ai l'impression qu'ils s'attardent tout le temps sur des ordonnances, sur des bouts de papier qui, pour moi, ne servent vraiment à rien, parce qu'on ne connaît pas ce qui se cache vraiment derrière la chose. Donc en soi, pour moi, Samarcande, ça fait déjà la troisième fois que je le fais, et je me sens vraiment bien quand je suis ici, parce que je parle en liberté, je suis moi-même, je ne vais pas commencer à me cacher derrière quelqu'un, et franchement, je trouve ça, c'est vraiment mieux, et aussi, voilà, notre sujet, c'est aussi concernant la famille, concernant la vie de famille, la vie partout, quoi. Et voilà. Et on tient toutes les deux vraiment à cœur à discuter de ça et avoir une conversation par rapport à ça.
Avant de commencer, quand vous parliez d'ordonnance tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance?
Une ordonnance, c'est en soi écrit en bref les faits qui ont été donnés, mais des fois, certains faits qui sont écrits, pour moi, c'est faux. Parce qu'ils ne savent pas vraiment. Donc, on annonce, par exemple, la police a dit oui, il y a ça, 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 ou soit de la famille dit il y a ça, ça, ça. Mais en soi, c'est écrit de la façon dont qu'on l'a dit, mais ce n'est pas écrit de la façon dont on l'a réellement expliqué. Donc, c'est vraiment. Pour moi, c'est un genre de double face, cette feuille. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je trouve ça pas vraiment correct.
Aujourd'hui, toi, tu le disais très bien, Shana, vous aviez envie de parler de la famille pour Shana et puis des parents pour Kérissa. Est-ce que ça revient un petit peu au même? C'est ce qui vous entoure, c'est des choses qui vous ont parfois fait beaucoup de peine parce que les parents restent fort importants pour l'une et l'autre, c'est ça?
Oui.
Ce qu'on avait fait, Kérissa, c'est qu'on avait commencé par toi, tu te souviens,
hein? Oui.
C'est comme ça qu'on va... Moi, j'ai construit la préparation. C'est qu'une bonne partie, c'est Kérissa qui va parler d'elle. Et puis, ce sera Shana. Et puis, vous aviez une petite conversation l'une et l'autre. Et on terminera par ça. Vous avez amené de très belles phrases que moi, je vais vous rappeler. D'accord? On fait comme ça?
Ok.
Et alors, il y aura une petite surprise. C'est que vous allez chanter toutes les deux un texte. C'est ça?
Oui.
Oui.
Kérissa, tu me disais, mon histoire, elle commence au Congo. Tu me disais que tu vivais avec la mémoire du nom de ton papa.
Oui, je vivais avec le nom de mon père dans la tête et sa mémoire à lui parce que je me dis que je vais grandir. Pour moi, tout ce que je veux faire ici sur Terre, tout ce que je pourrai aboutir au bout d'un moment, ça sera grâce à lui. Par rapport à notre rencontre, ce que je voudrais laisser, c'est justement ça. c'est la peine qu'on peut avoir d'être dans cet endroit, donc à l'IPPJ. La peine qu'on peut avoir de vivre parfois sans parents. Parce que la douleur, on peut faire semblant devant des gens, dire que tout va bien, mais ça nous ronge au fond de nous-mêmes. Et c'est ça que j'aimerais vraiment que les gens y retiennent. C'est que quand on a des parents, peu importe ce qu'ils ont pu nous faire, ou dans notre famille, nous, on a toujours mal, en fait. Et ça, les adultes, parfois, ils ont tendance à oublier. C'est que nous, on souffre de la manière dont ils nous ont fait, de la manière dont ils nous ont traités, de la manière dont ils nous ont carrément rejetés. Et ça, j'aimerais vraiment que les gens le retiennent, parce que moi, c'est un truc qui me ronge au fond de moi.
Et ce serait alors la... C'est les parents, alors, qui doivent réfléchir à mieux accompagner ou à mieux entourer, à mieux aimer leurs enfants?
Les parents, ils nous aiment, en fait, de base. Peu importe ce qu'ils peuvent nous faire, ils nous aiment de notre naissance, en fait. C'est parfois l'incompréhension. On a tellement, parfois, du mal à comprendre certains ados qu'on ne sait pas comment on est. Alors qu'on est tout facile à comprendre. On a une étape dans notre vie où c'est hyper dur à nous comprendre parce que, voilà, enfin, on part un petit peu dans tous les sens et tout. Mais ce qu'ils oublient, parfois, quand on nous gronde, on nous frappe ou on fait n'importe quoi avec nous, parfois... Parce que nous, on les aime, en fait. On ne compte pas le faire du mal. On ne veut pas vraiment le faire souffrir. On aimerait juste leur bien, mais parfois, on ne le montre pas assez. On le fait bizarrement, parfois. Ou c'est un petit peu difficile à comprendre qu'on les aime, parce qu'on ne dit pas tout de suite « je t'aime ». Parfois, c'est quand la personne part qu'on dit « écoute, je t'aime vraiment ». Mais il ne sera plus là ou il n'est plus là pour qu'on en... qu'il entende qu'on l'aime, quoi. Enfin.
Et pourtant, il continue à t'aider, même s'il n'est plus là. Hein.
Voilà.
Est-ce que tu as d'autres personnes dans la famille pour qui tu tiens un peu... pour qui tu as la même émotion et qui t'aident encore maintenant, mais qui sont vivants?
Oui, j'ai encore mais vraiment beaucoup d'affection pour ma sœur. Peu importe ce qui s'est passé, quand je lui parle, quand je la vois... Enfin, c'est moi, c'est mon portrait craché, enfin, physiquement, mais je l'aime en fait, parce que c'est ma seule famille qui me reste, donc oui, forcément.
C'est une grande force, et aussi bien pour Shana, c'est le pardon, j'ai l'impression, malgré le fait qu'on vous ait fait parfois beaucoup de mal. Il y a d'autres jeunes qui pourraient détester des membres de la famille qui ont été si maltraitants avec eux. Comment vous expliquez que vous arrivez à dépasser ça? Que vous continuez à avoir une émotion ou peut-être les aimer malgré tout?
Moi, je dis toujours un truc, c'est que quand on grandit au fur et à mesure, au fur du temps, on se rend compte que la famille est vraiment importante en fait et qu'on peut toujours compter sur la famille. Peu importe ce qu'on peut nous faire, des amis, des éducateurs, des assistants sociaux, on le connaît mais blindé. Mais la famille peut nous apporter un truc qu'eux, ils ne peuvent pas nous apporter. Le soutien, que ce soit psychologique ou moralement, et aussi l'amour. On a tout ça qu'il y a beaucoup de gens qui oublient. Parce que moi, je dis, je continue toujours à aimer ma famille, malgré tout ce qu'ils m'ont fait, parce que c'est un lien qu'on ne peut pas renier tout d'un coup. On est venus sur Terre, on était tous ensemble. Je ne peux pas le rejeter, parce qu'ils font partie de moi.
Est-ce qu'il y a un lien entre votre venue en IPPJ et les problèmes, enfin, ce que vous avez rencontré comme problème dans la famille?
Oui, il y en a beaucoup.
Et Shana?
Je sais pas, à l'IPPJ, c'est pas assez différent. Comment expliquer ça? Comme j'ai dit, ils se mettent trop sur l'ordonnance. Ils savent pas réellement. Des psychologues sont là, ils parlent, mais sans savoir la vraie chose. Puis quand on les explique, c'est soit on ment, on vous raconte n'importe quoi, c'est du baratin, c'est ceci, c'est cela, on se tramasse, c'est comme ça, comme ci, comme ça. Or que non, moi je l'ai déjà répété plusieurs fois, soit aux éducateurs, professeurs, que ce soit psychologue, AS, juge, avocate, quoi que ce soit, j'ai déjà répété plusieurs fois que non, la personne qui a vraiment vécu la chose, la personne qui a vécu le moment même, la vie, c'est pas quelqu'un d'autre qui a porté ma vie. Ma vie, je l'ai portée moi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a dit, ouais, ta vie va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je l'ai portée moi-même, je l'ai choisie comme elle était. Mais à part, comme on dit, il y a la vie et les conséquences de la vie. Les conséquences de la vie ont fait que je suis arrivée ici à l'IPPJ. Mais il faut pas dire que parce qu'on arrive à l'IPPJ, que voilà, on s'est fait maltraiter par nos parents, soit c'est nous qui avons maltraité nos parents, soit on est délinquants, soit ceci, soit cela. Non! Moi, ce que j'ai aimé, il y a un professeur ici dans les PPJ. Ce que j'ai aimé, ben, c'est, voilà, il dans ça, moi, par exemple, il y a beaucoup de filles qui sont venues ici. Je me suis pas adaptée par rapport à l'ordonnance, mais je me suis adaptée par rapport à elles, quand elles sont arrivées, comment elles étaient, la relation dont j'ai avec elles. Et ça, j'ai aimé. Ça m'a vraiment dit, voilà, il n'y a pas tout le monde qui est comme ça, mais il faut qu'on y fasse avec. Est-ce que, voilà, par exemple, moi, aujourd'hui, si un psychologue me coupe la parole, bon, pas coupe la parole, mais qui veut plus me parler, ça va pas me faire aussi mal que, par exemple, si ma mère veut plus me parler. Comme on dit, le silence d'une famille, c'est encore plus fort que le silence d'un inconnu. Mais je dis pas que ce sont des inconnus, je sais très bien c'est qui, mais au plus profond de moi, je sais très bien, c'est des inconnus, c'est un petit peu, je sais pas comment expliquer ça, quoi. Et d'un côté, moi, je dis, voilà, on est à l'IPPJ, ils sont là, essayent de mettre un projet à l'IPPJ, essayent de régler les problèmes de famille. Mais moi, je dis, c'est pas à l'IPPJ qu'on a réglé les problèmes de famille. C'est dans la famille, en restant là, en vivant avec eux, sans venir à l'IPPJ, qu'on pourra mieux régler les problèmes. Mais en étant ici, c'est comme si on fuyait les problèmes qu'il y avait, et puis on empirait, puis...
On fuit la réalité.
Voilà, on fuit la réalité.
Mais est-ce qu'on ne considère pas parfois que la famille n'est pas capable de faire le travail qui se fait en IPPJ? Je le fais exprès, hein. Je suis peut-être un peu provoquant, mais...
Capable, c'est une grosse phrase, capable. Comment expliquer ça? Capable de quoi? Si on arrivait jusqu'à 15 ans, nos parents, ils ont pu nous soutenir jusqu'à 15, 17 ans. C'est pas nos parents. C'est nous, il y a eu un problème chez nous. Soit quand je dis qu'il y a eu un problème chez nous, c'est-à-dire qu'il y a eu un bug ou soit, voilà, ça se peut qu'il y ait des disputes et maintenant les parents disent, voilà, c'est bon, ils demandent juste une petite aide d'un certain temps, mais pas d'un temps de 6 mois ou quoi que ce soit, c'est juste une petite aide, une fuse de semaine ou quoi que ce soit, une fuse de souffler un moment, mais eux, non, ils font tout un drame, c'est patati patata, alors que non, c'est pas ça, franchement, il faut savoir voir la réalité.
Je vais vous poser une question sur l'ordonnance, par exemple, enfin, je sais pas, c'est pas ça. Pourquoi vous êtes ici en IPPJ? Qu'est-ce qu'on vous reproche? On commence par qui?
Moi, on me reproche il y a un fait que dont j'ai pas envie d'en parler parce que c'est vraiment hyper crash.
Et donc, est-ce que c'est un fait de violence?
C'est pire que de la violence, mais c'est pas vrai. Et un autre fait, c'est de maltraitance. Même si j'ai pu me faire taper par XY, par ma tante, quoi que ce soit, mais en soi, si je regarde la réalité. Quand je suis tombée bas, c'est ma tante qui m'a repris, malgré que ma mère, il y a eu des problèmes avec ma mère, mais elle m'a quand même repris. Donc il y a quand même, même si elle a beau me taper aujourd'hui, m'a insulté quelque chose, mais je peux pas commencer à dire, ouais, mais toi, ceci, cela. Non, non, non. Parce qu'elle peut me rattraper en disant que si je voulais, t'étais pas ma fille, t'étais juste ma nièce. Je te reprendrai pas. Tu resterais là-bas comme une grosse merde. Non, je t'ai pris parce que voilà, t'es mon sang. Voilà, c'est simple. T'es comme si, même si t'es pas ma fille, mais c'est comme si t'étais ma fille. Il y a mon sang qui coule dans ma veine, coule dans la tienne. Donc automatiquement, c'est normal que je dois te prendre. Donc pour moi, voilà. Ça, c'est mon avis.
Moi, je suis...
Vous n'êtes pas obligé d'en parler, hein. Je le rappelle. Hein.
Moi, je suis venue ici par rapport à mon ordonnance. C'est coups et blessures contre un éducateur. Et on me reproche d'avoir fait un vol suite à une opération de Cap 48 de 480 euros qu'ils annoncent parce que j'ai fait des achats après ça. Et aussi pour maltraitance. Du coup, enfin...
Tu avais été violente, on te reproche d'avoir eu un accès de violence envers un éducateur.
Voilà, mais en partant vers la police et tout, j'ai des preuves qui peuvent témoigner que c'est moi qui me suis ramassée de coups. Parce qu'en allant à l'hôpital avec la police, ils ont relevé tout le structure que j'avais, quoi. Je boitais, j'avais mal vers mes vertèbres cervicales, enfin... J'avais mal un petit peu partout, quoi. Et puis, en me rendant compte un petit peu de la réalité, je me dis peut-être que c'est un truc qui est venu justement pour m'éviter de continuer à vivre de centre en centre. Parce qu'en soi, je suis venue ici, oui, pour ça. Oui, c'est injuste, parce que j'arrive pas à y croire que moi-même, je suis capable de faire ça, vu que la chose, je ne l'ai pas fait. Je ne vole déjà pas de base. Et agressive, je ne l'ai jamais été par rapport à mon passé. Donc,
par rapport à ton passé, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que depuis que je suis petite et tout, tout allait bien, mais à partir de mes 11 ans, j'ai subi des maltraitances par rapport à ma sœur qui me tapait, qui m'abattait, elle n'était jamais d'accord avec moi. Tout ce qui pouvait se passer, mauvaise fille, enfin voilà quoi, un petit peu le rituel de certains Africains. Mais donc du coup, ce qu'on m'a fait reprocher, ce qu'on a fait sur moi-même, je l'ai vécu déjà assez mal pour le faire subir à une autre personne. Surtout à un adulte, c'est encore pire. Du coup, je me dis, enfin, c'est irréel que je lève la main sur quelqu'un. Enfin, j'arrive assez bien à me canaliser pour en arriver là, quoi.
Et avant ça, tu es quelqu'un qui est né au Congo, dans des circonstances avec une famille, avec un... Tu me disais gâté pourri, c'est ça?
Pourri gâté comme pas possible.
Entouré. Et ce sont des déplacements. Pourquoi tu t'es retrouvé un moment, non plus dans un cadre familial, mais dans différentes institutions? Si tu veux toujours en parler.
Hein. Oui, petite, je suis née avec ma mère, mais ma mère, elle m'a abandonnée quand j'étais petite, avec mon père, après ma naissance. Mon père, il est mort quand j'avais 3-4 ans, il était mort. Et de là, j'ai dû aller jusqu'à chez mon oncle, qui est assez connu là-bas au Congo, où j'avais tout de boniche, où j'étais,
Des gens qui s'occupaient de toi.
Ils s'occupaient de moi comme si j'étais leur propre fille et tout. Mais ma grand-mère a voulu me reprendre en France. Et je suis restée à Marseille pendant un bout de temps. Et là-bas, j'étais trop bien, parce que, c'est ma grand-mère, quoi. Et elle voulait toujours mon bien. Elle voyait son fils à travers moi. Parce que je suis le portrait craché de mon père. Et donc, elle a essayé de m'élever avec son éducation à elle. Et franchement, je l'en remercie, parce que maintenant, quand je me vois, je me dis, si je suis telle personne maintenant, c'est grâce à elle. Et après, à un moment donné, ma demi-sœur me réclame ici, en Belgique. Ma grand-mère ne voulait pas que je vienne ici. Mais elle n'a pas vraiment le pouvoir par rapport à ma sœur, parce que ma sœur, c'est un lien direct de mon père, quoi. Elle décide de me prendre. Au début, ça allait bien, elle était toute gentille et tout. Mais moi, j'arrivais pas vraiment à m'intégrer à l'intérieur de la famille. Je trouvais pas ma place. Donc j'étais, on va dire, plus solitaire dans ma chambre, à lire mes bouquins, parler, oublier et écrire. Et puis elle me reprochait ça très souvent. J'essayais de faire des efforts pour aller vers elle et tout. Au bout d'un moment, ça s'est mal passé. Elle me reprochait que, je travaillais pas assez. Même si je pouvais faire un truc, madame trouvait toujours qu'il y avait un truc qui était mal fait. Il y avait toujours un petit problème là où il n'y en avait pas. Et là, ça commençait par des petits coups, des petites tartes. Ça passait, je me disais, c'est pas grave, ça tue pas. Mais après, j'ai commencé vraiment à me ramasser des coups au point où j'avais des bleus. On me balançait contre des portes. Je rentrais dans la maison, il y avait des couteaux qui se balançaient. C'était... Ça pesait lourd au bout d'un moment et j'ai essayé de tenir. Mais une fois que c'est passé par des menaces, par des injures, des insultes, que je me sentais vraiment rabaissée, qu'à l'école, ma prof de sport, quand je me déshabille, elle rentre, elle voit tous ces coups autour de moi, elle me demande d'en parler. Je vois que je peux pas parce qu'on m'a toujours dit « Ne parle pas aux assistants sociaux, ne parle pas à ceci. » Ils vont vouloir détruire notre famille. C'est tout l'image que moi j'avais. Et vu que j'avais à peine 11 ans, dans ma tête, je me suis dit, c'est normal, on ne fait pas rentrer un inconnu dans la famille. Mais quand j'ai grandi, je totalisais mes 12 ans, je me suis rendu compte que toutes les filles de mon entourage, toutes mes amies, n'avaient pas ça à vivre, chez eux. Et que c'était moi, qui vivais ça. Et là, je me suis dit que ce n'était pas normal. Mais quand je commençais à avoir des menaces par rapport à ma sœur et tout, j'avais décidé de partir chez ma meilleure amie. Mais pas à l'idée de partir pour qu'on me place ou quoi. À l'idée juste de rester quelques jours chez elle pour souffler un peu. Mais là, sa mère ne voulait plus. Elle avait dit que je ne pouvais pas rester comme ça. Continuer ainsi à me faire maltraiter alors que j'avais rien demandé pour être là. Elle avait décidé de m'accompagner à la police. Et quand j'ai tout expliqué à la police, comme toutes les familles, on a nié. Mes cousines, ma sœur, les a tous retournées contre moi. Tout était de ma faute. Devant le SAJ, c'était de ma faute. J'étais l'enfant ignoble. La petite princesse pourri gâtée qui s'en foutait tout. C'était moi, entre guillemets, le grand méchant loup. Et elle avait rien fait, elle a juste voulu m'aider. Ma conseillère, je n'ai deux fois plus de points de ma sœur. Mais en allant vers SO Jeune, un éducateur m'a appris. Et il m'a dit que non, j'étais une enfant, je ne méritais pas ça. Que j'avais rien demandé. J'avais pas demandé qu'on me prenne. J'avais pas demandé qu'on me fasse vivre tout ça. Et que je devais me battre. Parce que dans la vie, il faut se battre. On ne peut pas tout mériter sans devoir se battre pour l'avoir. Au début, je comprenais rien. Au fur et à mesure, je partais au rendez-vous SAJ. Je me sentais mal. Parfois, je m'enfuyais carrément en plein milieu de rendez-vous. Je quittais. Je rentrais à ce jeune. Je pleurais. Une fois, je me rappelle encore. Je suis partie à la cuisine, j'ai pris un couteau, je commençais à me mutiler. À un moment donné, j'avais touché ma veine, on a dû me raccompagner à l'hôpital. Et quand je suis revenue, le lendemain, l'éducateur, le même éducateur qui me parlait, est revenu. Il m'a dit, pourquoi tu te fais du mal? Au lieu de répondre, j'ai pleuré. Il m'a dit, tu vois pas que tu t'infliges encore une souffrance en plus que t'as déjà. Dans ma tête, je voulais même pas en parler, je voulais pas répondre. Il m'a parlé et il m'a dit, si tu peux pas me parler, si tu peux rien dire, je te passe un petit carnet. Et ces carnets, au début, je me disais, bah quoi, il va me servir, c'est pas ça qui va faire changer mon histoire et claquer de doigts et bam, ma vie change, quoi. Donc je trouvais un petit peu bizarre l'histoire des carnets, enfin, je sais pas. Et il m'a parlé juste de ça. Il m'a fait, de gens comme toi, j'en ai vu blindés. Et j'en ai vu blindés qui ont écrit, même certaines qui ont carrément publié leur vécu. Il y a certaines qui en ont parlé. Et je te dis que la majorité de gens qui souffrent dans la vie s'en sortent toujours. Ça me disait toujours rien. Mais quand j'ai quitté ces centres et qu'on a commencé à me faire balader des CAU en CAU, là j'ai eu le besoin d'écrire. Pour la première fois, j'ai ouvert ces carnets. Et j'ai commencé à écrire. Écrire toute ma vie, mon histoire, du début jusqu'au point où j'en étais, au CAU où je me retrouvais. Et j'ai parlé à une éducatrice qui me disait que si elle avait l'opportunité, elle aurait pu m'adopter. Mais c'est contre la loi, parce que c'est un éduc et elle peut pas me prendre, à moins que ça soit vraiment un truc extraordinaire, mais elle peut pas. Je me rappelle que quand je devais partir de ces CAU, elle m'a pris dans ses bras, elle a pleuré avec moi. Et ça m'a touchée, ça m'a fait mal au cœur. Parce que je me suis dit, ma famille ne m'y croyait pas, mais les inconnus me croient, ça fait deux personnes qui me croient pour le moment. Le fait qu'elle m'ait pris dans ses bras et qu'elle m'a parlé, ça m'a fortement touchée. Et jusqu'à maintenant, ça me touche toujours. Le peu de paroles qu'elle m'a dit, le peu de soutien qu'elle m'a apporté pendant tout mon séjour de 40 jours là-bas, ça m'avait réconfortée. J'ai quitté là-bas en pleurs. Pendant une semaine, je pleurais. Je me plaignais de son trou où j'étais. Je dis, je veux pas être là-bas. Et là, j'ai rencontré des gens, des filles du centre. Je me baladais avec elles. On partait en fugue. On revenait à 3 heures du matin. On prenait tout le temps. Moi, je me disais, plus loin je reste loin du centre, en fait, je serai mieux. Et j'ai commencé à déconner par là, de A à Z. J'ai commencé à déconner, à déconner, à déconner. Les éducateurs me parlaient, je m'en foutais. Je cassais comme vire. Là, je comprends que j'avais vraiment déconné, que j'étais vraiment allée bien loin. Le SAJ décide de me mettre au SPJ. On me met dans un internat vers le fin fond du monde, vers Ferrières. Mais l'internat, en partant là-bas, j'avais peur. Mais j'ai vu plein des enfants qui venaient de certains pays différents et tout, parce que cet internat pouvait rester au week-end. Et je me suis bien plu, j'ai fait blindé de connaissances, j'étais trop bien là-bas et tout. Et puis on m'annonce que je pouvais pas rester là-bas et que l'année prochaine, on va me trouver un centre et blablabli, blablabla. Avant de rentrer ici à l'IPPJ, je me rappelle, je suis partie justement à ce jeune. Et j'avais peur que l'éducateur qui me parlait se rappelle plus de moi. Je me suis dit, je vais venir, il va pas se rappeler de moi. J'étais comme une asperge, toute maigrichonne. Et là, c'était plus la même fille. Je me suis dit, il allait pas du tout se rappeler de moi. Mais quand je suis rentrée et que j'ai demandé s'il était là, on m'a dit qu'il allait arriver. J'ai attendu, pendant 4 heures. J'attendais. Et les autres éducatrices étaient choquées, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais absolument lui voir. Et j'étais là, ils me posaient à chaque fois, tu veux manger? Non, tu veux... Non, j'attendais toujours, avec impatience. On dirait que c'était que j'attendais mon père qui est là-haut, qui allait redescendre. C'était fou quand même, cette sensation que je pouvais avoir. Et quand je le vois, moi je le reconnais. Mais je me dis non, lui il va pas du tout me reconnaître. Mais il me voit de loin, il me prend dans ses bras et il me dit comme t'as grandi. Je me fais, je savais pas que t'allais te rappeler de moi. Et il commence à rigoler. Fais, t'es toujours aussi fofolle dans ta tête et tout. Mais ça va, je vois que t'es beaucoup mieux qu'avant. Je suis oui. Et il me fait, alors raconte. Je raconte tout. Qu'est-ce qui s'est passé après notre séparation et tout. Et puis, je lui passe le carnet. Il me fait, j'espère que t'as quand même écrit. Je fais, ben non, j'ai rien écrit. Ironiquement, je rends le carnet. Il le prend. Et puis, il l'ouvre, il voit déjà que c'est écrit, il referme. Et puis, il fait couler, il commence à pleurer. Enfin, il pleure. Et moi, je pleure avec lui. Je pleure. Et puis, je lui dis juste merci. Il me fait, pourquoi ? Je fais merci. Mon père n'était peut-être pas là. Ma mère n'est peut-être pas là. Mais vous, vous étiez là. Et grâce à vous, je ne détruis plus mon corps. Je suis plus triste. J'apprends à vivre dans un monde où c'est peut-être injuste de fois, mais je vois presque un petit peu tout en positif. Et j'avais une autre perception de voir la vie, de voir les choses, de voir les personnes, de gens. Parce que j'ai connu blindés de personnes qui avaient des caractères différents. Et je lui ai dit merci, vous êtes comme mon père. Et là, il a encore plus pleuré qu'avant. Je veux, ça sert à rien de pleurer, il me fait si, parce que mes propres filles ou fils, ils me diront pas ça, enfin, pour le moment. Je lui fais, c'est très souvent des inconnus qui nous font comprendre pas mal de choses, qui nous disent des choses qui nous rassurent, qui nous réconfortent. Et je crois qu'à partir de là, il a compris. Et même moi-même, j'avais compris que même si ma famille n'était pas là, certains inconnus pouvaient changer notre vie, bouleverser notre vie, au point où on devienne une autre personne, bonne vivante, en bonne santé, enfin voilà. Et j'en remercie, quoi. Et si aujourd'hui on me parle encore de lui, si j'apprenais qu'il lui était arrivé quelque chose, oui, si on me pose la question qu'est-ce que je ferais, je veux pleurer. Je veux pleurer parce que je lui porte dans mon cœur. Et il sera toujours là. Donc, c'est ça, quoi.
Assis au fond de la classe, j'ai même écrit sur la table. Je console mon manque d'amour par de la violence verbale. Dans ma tête, y'a des fantômes, c'est les souvenirs qui me hantent. La famille, c'est qu'un seul corps, chez moi, il manque un membre. Je compte pas mon passé, du coup, les plaies s'ouvrent. Au fil du temps, c'est les minutes qui vont me recoudre, baby. L'absence de mots, mes sentiments, je les écris. Mama, no cry, ton fils fera plus de bêtises. Dispute, discute, ma chambre est d'armes isolées. Ma vérité est mise à nu, donc mes points faibles sont violés. La richesse est dans le cœur, Lucien m'a prouvé le contraire. La force du nombre car mon public m'aide à zapper mon père. J'ai pas une modèle, même pas en bas des halls. À la maison je suis schizophrène, je dois jouer plusieurs rôles. Un thème abordé en se regardant pas dans les cieux. Le ciel me soutient quand je suis triste, avant
quand
que je pleure il pleut.
C'est la tête quand je vois une famille unie. Inscription scolaire, j'ai coché parents uniques. Mère seule for life, vu que j'ai pas de père. À force de chercher à aimer les autres, on finit par se perdre. Chef de famille précoce, j'ai enterré ma vie de gosse. Marcher sur mes pas, c'est suspecter une entorse. Je suis pas à plaindre, intérieurement j'ai souffert. Avoir un gosse a pas de prix, mais les divorces ça coûte cher. Je te ressemble, je ressemble, c'est ce que les gens me disent tout le temps. En amour comme un cadavre, je suis toujours froid et distant. Les regrets te sortent ton lit, comment trouver le sommeil? Pareil que tous ces couples qui fanent auront plus besoin de soleil.
Ta fierté t'empêche de revenir, t'as des mots de travers. Tous les chemins mènent à quelqu'un, les océans se traversent. Maintenant je roule vers le futur, la nostalgie dans le rétro. Dans mon miroir, te ressembler serait
quand
mon seul défaut.
Quand je me confronte au passé, je vois ça me ronger comme un affront. Je m'efforce de l'oublier. Ton nom est resté, mes mères dépompées, les années défilent, les souvenirs aussi. Je veux plus être envahie de remords.
Carissa, pourquoi vous avez l'air gênée là tout d'un coup? J'ai dit une bêtise.
Bah, juste à rajouter ici un truc par rapport à la PPJ, franchement, j'ai l'impression, quand on est à la PPJ, déjà que par moments on était enfermé physiquement par nous-mêmes, mais maintenant on est enfermé moralement et physiquement par moments quand on fait rien. C'est-à-dire, on est là enfermé, c'est toujours règle sur règle. C'est énervant. C'est comme si je reprenais la musique d'Islam, elle le dit réellement elle-même. On s'attarde sur des choses sans intérêt, sur le passé, sur des choses du passé sans intérêt, parce qu'à chaque fois qu'on revient ici, il veut toujours refaire notre histoire. Il y a des trucs. On n'a vraiment forcément pas envie d'en parler, quoi.
Ouais. Parce qu'ils essayent de savoir des histoires, mais chez nous, les Africains, il y a tellement de choses que quand ils essayent de dire
« On va faire en sorte pour essayer de t'aider, pour essayer de les retrouver. »
Patati patata.
Si nous-mêmes, on ne l'a pas trouvé, pourquoi vous voulez trouver à notre place?
Des fois, j'ai juste envie de leur dire « maintenant, j'ai l'impression de me diriger vers le passé, elle a vraiment raison. » De m'attarder sur des choses sans intérêt, c'est la réalité, parce que franchement, c'est pas eux
qui vont changer mon passé.
Maintenant, j'ai l'impression.
Tu crois vraiment qu'ils veulent ils veulent changer ton passé.
Moi, ils essayent vraiment de les changer par rapport à ma mère. Ouais, que j'ai à l'ambassade pour essayer de retrouver ma mère. Ma sœur, elle a déjà fait, mais on n'arrive pas. Pourquoi eux, ils vont réussir en fait? Même si mon avocate elle-même a dit que c'est pas possible, on a essayé.
Mais toi, tu le veux, tu as exprimé un souhait pour le faire.
Non, j'ai pas exprimé. Ils m'ont dit de parler de moi, mais je les ai parlé de A à Z. Mais maintenant, ils peuvent pas changer le passé en fait.
Est-ce que tu es sûr que c'est vouloir changer ton passé qu'ils veulent faire?
Tout ce qu'ils. Oui, parce qu'en fait, moi, j'essaie de l'oublier. Mais en me forçant, en essayant de parler, c'est remuer mes trucs.
Pourtant, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ça. C'était ton souhait de parler de ce passé.
Ah, mais oui, c'est autre chose.
Mais c'est autre chose. Vous voyez ces passés-là, comme je l'ai dit depuis le début. On ne va pas me juger. On ne va pas s'attarder pour me dire « Si t'es passé ça ou même passé, c'est parce que t'avais déconné, t'avais fait ceci, cela. » Non. Je m'exprime sans qu'on me juge. Je m'exprime sans qu'on me dise quoi faire après. Parce que je me suis exprimée. Il y a des gens qui vont écouter ce que je dis et tout. C'est pas pour autant qu'ils vont vouloir essayer de me porter un jugement, une aide ou je sais pas quoi, non. Le fait juste de parler, comme j'ai dit, ou d'écrire, ou de pratiquer une activité, parfois ça monte tellement d'émotions et ça nous libère. On n'a pas forcément besoin d'en parler à une psy, un psychiatre, je sais pas.
Est-ce que c'est pas avoir l'impression qu'on vous prend pour des enfants à problème?
Aussi, ça aussi.
Ah, ouais.
Oui, mais c'est tout le temps. Déjà, si on nous place ici, c'est qu'on nous prend déjà pour des enfants d'un problème, en fait.
Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette impression-là?
Personnellement, cette impression, moi, ça me passe au-dessus de la tête.
Comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous perçoive, qu'on vous accompagne?
Comme tout le monde. On n'est pas des enfants de 5 ans, je suis désolée. Hein. Mais un enfant de 5 ans, tu la parles pas comme...
On vous parle pas comme ça, ici.
Ouais, mais...
En fait,
j'ai l'impression comme...
On juge parfois comment on peut être, nos petites manies, il faut changer nos manies.
On peut pas rigoler.
On est venu ici pour l'éducation, on n'est pas venu pour nous dire arrête de faire tes manies, arrête de rigoler comme ça, arrête de faire ceci, non. Ça c'est notre personnalité en fait. Donc moi personnellement, je trouve que j'ai aucune étiquette. Parce que je suis ici, je suis moi. C'est comme je suis à l'extérieur, c'est comme tout le monde me connaît. J'ai toujours été ainsi, et je vois pas pourquoi est-ce que je veux changer. J'apprends des choses de moi-même, parce que la preuve, je suis là, je suis toujours en vie, j'ai appris des choses avec d'autres personnes, mais qui m'ont aidé, maintenant j'apprends à construire ma vie moi-même. Si j'ai besoin d'un truc, je sais que je dois travailler pour l'avoir, je sais que je dois faire quoi. Donc, je vois pas qu'est-ce qu'ils vont me rapporter. L'école, ils peuvent pas me parler de l'école, parce que je vais tout seul à l'école, en fait, de base. Je me suis inscrite moi-même à l'école cette année.
Combien de temps vous avez encore vous allez rester ici encore?
Là, logiquement, il me reste genre 3 mois, parce que j'ai décidé de passer mes examens ici. Donc 3 mois, après, au revoir.
Et toi, Shana?
Je cherche mon code.
C'est une des conditions, ça fait partie de ton projet, ça?
Ouais.
Et pourquoi c'est si difficile d'en trouver hein?
En fait, je vais commencer que maintenant.
À le chercher?
Oui.
Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de ça?
parce que j'avais envie. Ça, c'est la vie, quoi. C'est problème de famille, problème de ceci, patati patata. Et puis la justice, toujours là, dans les pattes des gens, c'est chiant, quoi.
Comment faire avec ça, avec cet équilibre, Shana, pour ne pas te retrouver encore en IPPJ ou ailleurs?
Non, je travaille, je peux partir en prison, ça c'est sûr. Il faut vraiment que je parte dans l'extrême. Mais là, maintenant, de toute façon, j'ai mon cote. Si je fugue de mon cote, c'est que je suis conne. Il faut savoir dire les choses. Si maintenant, je sais pas, je fais une connerie, je suis toute seule. De toute façon, il n'y aura personne qui sera derrière moi en disant « Faut que tu fasses ça, il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu vas à l'école, il faut que tu te... » Bon, laver, le brosser les dents, je vais le faire, me nourrir, ok. Mais là...
Je peux vous poser une question. Et qu'est-ce que ça vous fait qu'on vous considère comme ça, justement? Qu'on vous dise « Il faut te lever, il faut savoir se laver, il faut savoir manger. »
Mais j'ai envie de dire quoi, t'es ma mère, t'es mon père. Mes parents m'ont dit après à me laver, à me brosser les dents et à aller aux toilettes, me suer les fesses. Donc c'est pas ça qui va m'apprendre. Je pense que cette éducation-là, je l'ai appris depuis que je suis née.
Et pourtant,
on vient faire ça ici, mais je trouve ça ridicule de le refaire.
Pourtant, vous vivez parfois avec des jeunes filles qui n'ont pas cette base-là.
Ouais, oui, mais qui s'adressent aux filles. Parce que moi, je suis désolée, hein. Mais c'est pas les éducateurs qui m'ont nourri, qui m'ont donné du pain quand j'étais gosse. Hein. C'était pas eux. Hein. Et je sais absolument que je suis propre, parce que dans ma famille, on est tous des maniaques, mais de maniaques, de tarés. Donc c'est impossible que moi-même, je me néglige et que je sois sale, en fait, de base. Parce que moi-même, je vais le sentir que c'est mal propre. Donc, qui s'adresse aux filles qui en ont besoin, pas à moi, je sais pas.
Pas tout le monde, quand même.
Il y a des gens qui sont propres, on n'a pas besoin de dire, va te laver. Déjà, s'ils nous laissaient se laver tous, tout le matin, on n'aurait pas besoin de se laver vers nos leviers là-bas. Parce qu'il y a des jours, maintenant, pour se laver. C'est un truc de malade. La douche, quand même, on va pas aller se suicider sur une douche, quoi.
Bah
je sais
ouais,
pas.
Soit l'éducation est jusqu'au bout, mais pas à moitié, quoi. On demande de se laver tous les jours, mais on se lave tous les jours. Il y a des heures pour se laver. Je connais pas c'est quoi les heures pour se laver. Limite, quand tu vas à l'école, tu vas pas te laver, mais quand c'est le soir et le matin, t'as tout le temps, largement le temps, de 8h à 9h pour aller te laver. Il y a une heure. Il y a encore l'après-midi, encore. Non, on a demandé pas de se laver.
10 minutes de douche.
10 minutes, quoi. Donc, surtout quand c'est une fille. Un homme, ça va, il se déshabille, patati patata. À la fin, faut pas oublier qu'elle a ses cheveux, qu'elle a ses pilés la jambe, ses aisselles, la partie intime et patati. Mettre son shampoing, son après-shampoing. Je sais pas, en 10 minutes, on sait pas faire tout ça, hein.
Comment vous faites pour l'exprimer, ça, sans vous fâcher et sans être trop...
Bah, je prends mon temps dans ma douche. Parce qu'à partir du moment où je suis dans ma douche, il peut pas rentrer parce qu'à ce moment-là, ce sera violation d'intimité. Alors, si on veut jouer avec ça, bah, je vais jouer avec ça. Donc voilà, ils veulent des fois jouer avec les règlements, la loi, les droits, les devoirs, en disant que nous, on a le devoir de, on a le devoir de nous, et puis les éducateurs, en disant que eux, ils ont le droit. Mais je vais leur dire juste un truc, j'ai le droit de prendre ma douche. Si je vais prendre 20 minutes pour ma douche, j'ai le droit de prendre ma douche. Donc si tu rentres dans ma douche, viens dans la salle d'intimité. Déjà, c'est bien, ils peuvent pas rentrer dans la chambre comme ça.
Mais ça, les gens ici le savent, mais.
Non.
Attends, ils le savent pas. Attends deux minutes.
Ils harcèlent pendant la douche.
Je veux pas donner l'impression aussi que parce que vous êtes ici avec moi, on est tout seul, et c'est libre. Mm-hmm. Tu vois, eux ne sont pas là pour répondre. Et je ne veux pas donner l'impression que quand vous êtes ici, vous... Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir trouver peut-être un moment, je ne sais pas comment ça peut se faire ici, mais le cadre de parole pour exprimer des choses que
on
vous ressentez.
On n'a pas d'expression, on n'a pas la liberté. Écoutez, d'expression
ça,
ici.
Il y a la réunion de jeunes filles, en fait. Mais cette réunion, jusqu'à maintenant, ça va faire 4 mois presque que je suis ici. Je ne sais toujours pas à quoi il sert, personnellement. Je ne sais toujours pas à quoi il sert parce que... C'est bien de dire les réunions de filles, exprimez-vous, dites vos demandes aux éducateurs. Une fois qu'on parle, qu'on dit qu'on a l'impression que rien n'avance.
C'est tch-tch-tch,
ouais, toi tu fais rien, toi tu fais rien pour que ton projet avance, tchiki-tchi, patati patata et tout, mais vous plaignez tout le temps. On nous demande de nous exprimer une fois qu'on le fait, allez, ça y est, on ramasse. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est que nous, on doit faire, quand ils nous demandent un truc, c'est oui madame, oui monsieur.
Oui maître.
Et quand nous, on demande un truc, allez, on nous coupe direct. Parce que c'est bien de dire que ouais, vous faites rien. Mais moi, à partir du moment où j'écris une lettre pour qu'on faxe à tous les centres, pour qu'on essaie de me trouver un cote, à partir du moment où moi, j'essaie de faire mon mieux et que je vais vers l'assistance sociale pour qu'elle m'aide et tout, et que c'est elle qui n'a pas du tout le temps pour faxer la lettre au centre.
5 secondes à fax.
5 secondes pour quelques centres, pour des fax, pour une lettre, en fait, une bête. C'est dur, c'est plus à moi de faire le boulot. J'ai pas la machine pour faxer le machin, bidule, le truc. Hein. Ça aide de le faire. Donc quand je la redemande encore, elle ose me mentir droit dans les yeux, me dire que j'ai envoyé à plusieurs centres. Mais la preuve, j'ai reçu qu'une seule lettre.
Et ouais.
Il faut arrêter de tulter, genre.
Or que la maman, la reine, la jeune fille dit, on ne juge pas les autres. On ne juge pas. Vous avez la liberté d'expression. Mais à partir du moment qu'on dit on ne juge pas, faut mettre tout le monde dedans. Faut pas se dire, tu juges pas. Non, on juge pas, on se juge pas. Alors à partir du moment qu'on s'exprime, ah oh, mais patati, t'as rien fait, tout en tout plein. Hein. Oui, les éducateurs, ils ont toujours fait ça. Oui, c'est éducateur. Il faut savoir faire les choses du bon sens. Hein. Faut savoir, c'est dans les deux sens. Or que non, nous on demande un truc aux éducateurs, soit ils font genre qu'ils entendent pas. Ça, c'est dans deux minutes.
Si un éducateur était là, il serait pas d'accord avec toi, je crois.
Non, ils sont jamais d'accord.
Attends, Chana, ne crie pas quand tu parles. Parce que tu dis des choses fort intéressantes, mais tu les dis comme si tu étais énervée. Mais... Et ici, ouais, mais... on n'a pas du tout à s'énerver.
En fait, j'ai l'impression parfois qu'on est des animaux en cage. Ils nous observent, ils écrivent tout ce qu'on fait.
Tout ce que vous dites ?
Oui, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Mais ils écrivent jamais ce qu'eux, en fait, ils avaient dit pour nous pousser à cette réaction-là. Parfois, juste le fait juste d'avoir dit « Non, mais je rêve. Quelle éducation t'as eue ?» Mais c'est une phrase qu'on ne peut pas dire. C'est pas parce que, en fait, on vous a dit « Ah madame, vous avez pris un petit peu du poids, quelle éducation vous avez eue, vos parents vous ont mal éduqué, on t'a pas appris qu'on devait pas dire ça, patati patata et tout. » Mais eux, quand ils nous voient « T'as grossi, t'es devenue une grosse laide et tout. »
Ah oui.
Bah oui, tu dois rigoler en fait. Toi, en ce moment-là, toi, tu dois rire.
Ah ouais,
marrant.
Attends.
Mais quand c'est eux, ils vont péter le plomb. Moi, je les dédicace, je fais « Eh, moi, je suis pas venue ici parce que je suis mal éduquée. Hein. Je suis venue ici. » Parce que j'avais pas de choix, en fait. Si j'avais d'autres choix, j'aurais pu déjà fuguer et partir. Hein. Personnellement, moi, ça me dérangerait pas. J'ai déjà dit cash. S'il faut qu'on m'envoie dans mon bled, qu'on m'envoie au Congo, ça me dérange pas. Personnellement, je suis une princesse chez moi, donc je prends mes clics et mes claques, je me casse, ça me dérange pas du tout.
Ah mais oui, on est des guenons, hein. Attention, on est aussi des guenons, hein.
Oui, donc.
Guenons, c'est une conne, c'est une imbécile. Comme avant-hier, il y a une éducatrice qui va chez une jeune. Ah ouais, est-ce que tu sais dire à tes filles que voilà, faut qu'elles se lavent parce qu'elles sont vraiment le poisson et moi, j'arrive vraiment pas à le dire. C'est quand on rôde tout ça, t'es là pour aider justement la personne, tu vas envoyer les autres filles, mais tu sais très bien que ça passe à faire des problèmes. Et c'est ça que j'aime pas chez eux. Ils essaient de trouver des filles qui vont dire ça, et après ils disent, ah, mais c'est faux, j'ai jamais dit ça, j'ai dit que tu devais dire ça. Et à la fin, et comme une fois la chef éducatrice elle l'a bien sortie, hein, la parole d'éducateur comme la parole des jeunes, je pense que je fais plus froid à la parole d'éducateur que celle des jeunes. Hein.
Oui, elle nous a sorti, elle a fait façon, vous ici, on peut pas vous faire confiance, peu importe ce qui va arriver, vous êtes en tort. Et c'est à partir de là que j'ai capté qu'en fait, même mon avocate l'a dit, elle a fait, pourquoi t'es ici par rapport à ton éducateur? Toi, on va pas te croire parce que t'es placé depuis. Lui, on va lui croire parce qu'on sait qu'il connaît son métier. En fait, j'ai remarqué que c'est tout le temps comme ça, en fait. Dans ces milieux ici, t'es en tort, l'adulte a raison. Et même quand t'essaies d'expliquer, tu mens. C'est tout bête.
T'as rien à dire. T'as une remarque? Chambre de relais. Ah, tu veux pas écouter? Si tu veux, tu fugues. C'est ouvert ici. On te prend pas, là, patati. On a juste un papier à faire, comme ils le disent.
Mais quand t'essaies de fuguer, ils te rattrapent quand même.
Voilà. Alors, ouais, y a vraiment pas de juste milieu. Soit on fugue, tu nous laisses, tu cours pas après nous. Mais soit tu nous dis tout court, tu ne fugues pas. Commence pas à dire aux jeunes, vas-y, fugue. De toute façon, j'ai juste un papier à faire. Si c'est pendant 30 secondes, la fille, elle fugue et que tu cours après.
Qu'est-ce qu'il faudrait comme genre d'adulte pour s'occuper de vous? Parce que parfois, vous n'êtes pas facile.
Des adultes justes.
Parce que je... Ouais.
Et qu'ils comprennent, et que nous, on peut les comprendre, qui ne changent pas de version à n'importe quel moment, qui sont au moins corrects dans leur cerveau, qui ne changent pas de discussion à n'importe quel moment.
Mais qui que ce soit, excuse-moi, Chana, mais qui que ce soit, vous êtes ici, on vous l'impose. Donc, à partir du moment où vous entrez dans l'IPPJ, vous n'en avez pas envie, souvent, d'être ici.
Ouais, mais oui, voilà, mais... on a affaire avec.
Non, mais c'est pas ça. En fait, écoutez, s'il y avait des éducateurs qui avaient eu de vécu un petit peu similaire au nôtre, qui sont devenus éducateurs, je crois qu'ils nous comprendraient un peu plus.
Voilà.
S'ils avaient eu un de ces passés...
Mais tu ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas.
Non, il y a juste un éducateur.
La vie des éducateurs.
Si, non, il y a juste un...
Il y a des éduques qui nous ont parlé. Qui disent, ah, moi, je viens de là, moi, je viens de ici, on en a tout. Non. Donc, quand ils nous parlent, on comprenne. Et il y a d'autres éducatrices.
Ils sont là. Moi, je suis jamais rentrée en IPPJ. Je suis jamais rentrée en prison. J'ai jamais doublé. Et patati patata.
Moi, je suis pas
mais
comme
arrête,
vous.
Arrête de lancer des fleurs, meuf. T'es, je sais pas, t'es un humain comme les autres, hein. Toi aussi, ça va t'arriver un jour de tomber bas. T'es là, tu te prends pour qui? Moi, je l'ai dit clairement. Moi, j'ai pas peur de le dire, hein.
Oui, mais répondre comme ça.
Ah, mais moi, quand
attends, parce que
non,
tu
mais
ne
pardon.
Pas.
Moi, dès que je suis, je le monte devant l'éducateur, hein. Quand j'en ai ras le bol, qu'ils me font vraiment chier de dire clairement à leur gueule, vous me faites chier, fermez vos gueules, j'ai pas besoin de vous entendre. Hein.
Chana, est-ce que tu ne pourrais pas dépasser ton langage? Enfin, tu vois, le langage que tu tiens là, personne ne peut entendre.
L'autre fois, ils avaient dit, je sais plus, oui, à une nouvelle qui est là, mais c'est une petite, elle a que 13. Ils disent que l'éducateur était au point carrément de dire, ferme ta gueule.
Mais elle l'a pas dit.
Il l'a pas dit.
Mais après, elle a levé son poing.
En fait, oui, il a levé son poing, ferme ta. Il s'est énervé, et puis la fille elle est partie. Après, dans le couloir, il a fait putain, me fait chier qu'elle ferme sa putain de gueule, quelle conne!
Moi, j'entends ça. C'est logique que je veux réagir. Je fais logiquement, monsieur, vous n'avez pas le droit de dire ça. Il me fait, waouh, c'est pas du tout le moment non plus de me faire la réflexion et tout, et puis il descend. Mmh. Et quand la fille va en parler au chef éducatrice, elle va dire, c'est toi qui l'avais poussé à bout.
Et après, quand on explique, on fait, non, madame, c'est passé comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait au moins 10 filles qui sont là. Oui, c'est passé comme ça, comme oui. ça, comme ça. Pour qu'elles disent, mais c'est pas vrai, c'est quoi ça, nanana.
Ou parfois, quand t'as des témoins et que tu dis, on peut demander à telle ou à toutes les filles.
Non. Façon, il faut pas mêler tout le monde dans ses affaires, c'est toi et l'éducateur.
Ah,
c'est ça. La jeune, vous la voyez déjà presque énervée, elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Et qu'elle vous dit, madame, je suis pas de bonne humeur, est-ce que vous pourrez juste un petit peu me laisser de mon coin? La prof, elle va s'énerver, tu veux pas travailler, nanana et tout. Ça encore, ça passe. Mais au moment où il rappelle que t'as pas de parents. De toute façon, t'as pas de parents, t'as pas de famille. Je suis sûre que tu vas revenir ici pour des mêmes faits, nanana et tout. T'allais pas à l'école. Enfin, quand j'attends ça, t'as à la place de gens, ça me fait mal au cœur. Et à un moment donné, je leur comprends pourquoi est-ce qu'elles répondent comme ça. Parce que, toucher la plaie alors qu'on essaye de la refermer, c'est pas vraiment l'idéal. Hein.
Et pour moi, ils ont rien à me dire, clairement. Parce que je vais juste leur dire un truc, je suis pas sortie de leur trou. De un, de deux, c'est pas mes parents, c'est pas quelqu'un de lien, pour moi c'est juste des inconnus et c'est juste des gens que je vais juste à un moment de ma vie les voir, mais clairement c'est pas avec qui je vais être là, Masta, viens, on se fait un check, viens on se voir un café ou quoi que ce soit, je fume un joint à côté d'eux. Hein. De toute façon, ils ont complètement rien à me dire, hein. Ils sont là, ils ferment leur bouche, ils font leur boulot, hein. Et si je veux ouvrir ma bouche, on est là, les PPJ, imagine, il m'a bien dit, hein. T'as besoin d'ouvrir ta bouche à écrire dans mon ordonnance, hein. Dans mon jugement, t'as besoin d'ouvrir ta bouche. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire ce que tu penses. Hein. Alors à partir du moment que ma juge me donne l'autorisation de le faire, ils ont complètement rien à me dire. Hein.
Mais si.
Ah mais non, si ma juge m'a dit t'as un problème et toi tu le dis clairement, clair et net. Hein. Tu le dis. Hein. Et moi une fois c'est parti en baston parce que j'ai commencé à dire à les filles, voilà les skateurs ils ont dit ça. J'ai pris leur défense. Après quand les skateurs ils ont vu que j'ai pris leur défense, ils ont commencé à me gueuler dessus. Ça, il faut savoir ce qu'ils veulent. Hein. Des fois, ils demandent à nous, ouais, vous pouvez parler à telle fille pour qu'elle se calme. On le fait, et puis une fois qu'on le fait, c'est en commençant à nous engueuler. Puis à un moment, l'éducateur a voulu me toucher, j'ai fait, je t'ai pas touché, donc tu me touches pas. T'es ni ma mère, ni mon oncle, ni mon frère, rien du tout pour me toucher, t'as rien à me dire. Là, je suis là, hein. Oui, ton boulot, c'est de savoir si je vais.